du Seigneur est établi par Dieu. Alors, j'ai tiré cet enseignement dans le texte, dans les évangiles, le livre de Marc, chapitre 3. Verset 13, 14 et 15. Marc 3, 13 à 15. Nous lisons. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ici, nous sommes dans le deuxième livre de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Marc. Et nous remarquons que le livre de Marc est très court, il est très condensé dans son mode de présentation. Quand vous lisez, Marc rapporte en fait les œuvres du Seigneur plutôt que ses enseignements. Quand vous parcourez le livre de Marc, vous verrez ce que le Seigneur a fait, beaucoup plus que ce qu'il a enseigné. Il est beaucoup plus pragmatique. Nous remarquons aussi dans l'évangile de Marc que Marc ne le coupe pas à une forme passée dans son récit ou dans ses récits, mais il désire beaucoup du présent. L'emploi du mot, par exemple, en grec, eutéros en grec, qui signifie aussitôt. Et qui revient plus de 40 fois dans son évangile, est très particulièrement frappant. Il montre les actes de Jésus. Aussitôt, il fit ça, aussitôt, il passe à un autre acte. Donc, nous voyons la présentation de Marc des œuvres de notre Seigneur. Marc présente un peu dans son évangile Jésus-Christ comme mort. Et serviteur, celui qui est toujours en train de travailler, de servir. Alors, on parlera du Toulos, de cet esclave, ce serviteur. Le but de cet évangile est de présenter Christ comme le serviteur de Dieu. Il n'est pas seulement roi, promis comme nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, mais aussi le serviteur de l'Éternel. Selon ses propres paroles, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et nous pouvons lire cela dans Marc chapitre 10, le verset 45. Donc, nous remarquons que dans ce service, dès le premier temps de sa prédication, Jésus ne reste pas seul. Plusieurs personnes accourent à lui, plusieurs le suivent. Ses disciples deviennent nombreux. Ils sont appelés par Jésus et ils le suivent. Alors il va falloir que le Seigneur choisisse parmi cette multitude un groupe, un noyau pour être avec lui. Alors ce noyau est appelé, désigné, quelquefois disciple ou apôtre. Il y a quelques nuances, je ne voudrais pas rentrer dans les définitions, mais dans notre conception, dans ce que nous retenons, c'est que il a choisi parmi ceux qui le suivent, parmi ces nombreux disciples, quelques-uns, que nous appelons apôtres, au nombre de 12, pour être avec lui. Alors, quelles sont les conditions de Jésus pour établir ces 12 personnes qui seront ses proches collaborateurs? À partir de ce test, là, il monta sur la montagne. Dans le verset 13, nous voyons cette partie. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il monta sur la montagne. Alors, le contexte, la culture parlée, c'est une langue de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un peu proche ou presque similaire un peu du contexte d'Orient et surtout d'Israël. Dans la présentation des montagnes, des hauts lieux, je sais que en Israël, quand nous lisons l'Ancien Testament, depuis le parcours même d'Égypte, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec Jacob, Moïse, jusqu'à ce que le peuple soit installé en Canaan, nous voyons que les montagnes ou les hauts lieux ont une grande signification pour l'adoration, non seulement de l'Éternel, mais pour certains autres dieux aussi. On élevait des autels sur les hauts lieux. La montagne, dans ce contexte, est une manière de montrer un rapprochement au divin, au Dieu qui est en haut, dans la culture en Afrique. Je me rappelle encore, j'étais tout petit, je dois dire, dans un contexte très rural, mes parents sont des cultivateurs, des cultivateurs, donc on vivait en campagne. Mais chez nous, quand vous naissez déjà, vous êtes en contact déjà avec votre conception jusqu'à la naissance en relation avec les dieux. Alors, c'est pourquoi il y a un théologien africain de Diakoté, qui est un a écrit que les Africains naissent préparés pour la connaissance du vrai Dieu. C'est ici que vous naissez en Afrique et que vous dites je suis athée, comme je l'appelle ici. Il n'y a pas d'athée chez nous. On n'a quelque part une croyance, même si après, dans notre éducation, on abandonne cette croyance. Mais nous naissions dans cette conception de penser à une présence divine autour. Et nous, nous avions des dieux, nous avons des idoles, des fétiches qui étaient sur des hauts lieux dans une montagne normale de mon village, à une altitude d'environ 200 mètres. Et nous y allions pour faire des adorations. Et c'était, il est tellement sain, on ne parle pas. Et quand on part et qu'on revient après les sacrifices, il ne faut pas regarder en arrière, ni à gauche, ni à droite. Il faut avoir le regard tout droit sur le sentier au devant jusqu'au village. Parce que le haut lieu, c'est tellement sain. Mais Jésus choisit cette montagne pour appeler ses disciples. Jésus donc voulait chercher par là la présence de Dieu. Que son choix aussi important soit aussi le choix de Dieu. Alors, quelquefois, dans notre ministère, dans notre vie chrétienne, nous devons aussi avoir de grandes décisions dans notre vie, essayer de chercher la présence de Dieu. Pourquoi on a une expression chez nous dans nos églises, quand nous sommes en moment de prière, nous disons que nous sommes sur la montagne. Si un chrétien de l'Alliance ou évangélique ou un protestant en Afrique ou en Côte d'Ivoire vous dit je suis sur la montagne aujourd'hui, ne lui proposez pas à manger, c'est une façon bien simple pour dire que je suis en jeu de prière. Nous devons le faire. C'est le lieu où on a une bonne relation avec Dieu. Et vous voyez que Jésus le fit plusieurs fois. Où il est monté sur la montagne pour le moment de prière. Sur le mont Tabor, là où il y a eu la transfiguration. Où sont apparus à côté de lui Moïse et Élie. C'est sur la montagne. Donc, le Seigneur, avant de choisir 12 personnes pour en faire les apôtres, des collaborateurs proches et monter sur la montagne pour rechercher la volonté de Dieu. Le deuxième élément que nous voulons retenir ici, c'est que leur appel est selon sa volonté. Il les appela selon sa seule volonté, influencé par les avis des uns et des autres. Et quelquefois, ça peut arriver que vous vouliez faire quelque chose, mais vous pouvez pencher par un sentiment de choisir tel, non pas par un critère spirituel ou un choix de Dieu, mais par une certaine affinité ou une influence qu'il peut y avoir. Je dis souvent que nous avons des enfants, on les aime tous. Comme les enfants, ils tiennent beaucoup à cœur. Mais des fois, les enfants font des choses et on peut être tenté d'avoir une préférence parmi nos enfants. Je ne sais pas si ça arrive au père ici, que tel il répond à tel. De cette manière, j'apprécie beaucoup que tel autre. Parce que chacun est avec sa famille. Et on peut être influencé par ça. Mais Jésus a appelé les gens selon la volonté divine. Car nous savons que Jésus, non seulement il est homme, il est aussi Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Donc, il les appelle selon la volonté divine. C'est pour ça, d'ailleurs, dans le premier point, il est allé sur la montagne pour rechercher cette volonté. Donc, il va les appeler selon sa propre volonté. Et non pas selon la volonté des gens. Parce que plusieurs voudront être ses collaborateurs. Alors, quelquefois, nous suivons des films sur l'évangélisation et je vois un peu le film de Jésus. Parce que c'est projeté ici. Alors, on voit une image où le Seigneur est en train de choisir ses disciples. Et puis, il y a des gens qui sont arrêtés pendant qu'ils posent la main ou le choix. Il y en a qui aspirent, qui pensent que le Seigneur va me choisir. Et pas, je vois Jésus qui le dépasse et puis touche quelqu'un de lui. Mais est-ce que c'est juste? Mais c'est le Seigneur qui choisit selon sa volonté, non pas selon la volonté de ceux qui sont. Et nous devons savoir, nous aussi, que nous sommes appelés selon la volonté de Dieu. Et Dieu utilise toutes les manières pour nous gagner. On vient par une circonstance, moi je ne pourrais pas rendre mon témoignage, mais c'était un parcours d'une vie. Dieu a utilisé des conditions pour que je sois là. Et aujourd'hui, quand je regarde d'où je viens, je ne savais pas que ces petits gestes, depuis que je vais à la l'église et je veux que je vais servir le Seigneur ou je vais être chrétien, allait me conduire jusqu'aujourd'hui dans votre église ici à Toulouse. Mais parce que Dieu avait déjà planifié ces choses selon sa volonté. Il y a des personnes qui sont appelées suite à une maladie, à une souffrance, à une difficulté. Mais ces conditions, Dieu les prépare pour vous amener à ce que vous soyez dans sa volonté. On n'est pas ici de nous-mêmes. On n'est pas venu de nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus parce que nous voulions, dans notre propre volonté, les choisir ici-là. Il y a un jour, dans mes enseignements, il y a un des fidèles qui m'a dit, mais c'est ce que je suis ici, mais est-ce que tu sais que le Seigneur est né? Il m'a appelé et que je n'ai pas eu le choix. Il dit, mais moi j'ai pensé que tu es venu à volonté pour servir le Seigneur, mais il ne savait pas qu'il y avait une force qui te contraignait. Oui, il y a une force. Vous êtes là parce qu'il y a une force. Vous-même, vous savez que vous subissez quelquefois des humiliations à cause du Seigneur. Mais pourquoi restez-vous toujours dans la foi? Chez nous, par exemple, moi, je suis fils de 12 enfants sur les derniers. Ma mère et mon père ont eu 12 enfants sur les derniers, de 12. Et donc, le Benjamin, qui suis le seul chrétien de 12 enfants, qui est tous vivants. Maintenant, il y en a qui sont partis. Mais vous imaginez les calomnies. Il arrive quelquefois quand je prends un enfant pour avoir mal fait, puis notre ennemi, il n'est pas chrétien.